franceinter.fr. La science de l'environnement. En partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et si un paysage beau à regarder était aussi un écosystème en bonne santé?
Découvrir la biodiversité, découvrir des espèces inconnues, communiquer sur elles, bon, c'est faire passer un message sur la beauté de la planète, la beauté de la biodiversité. Je suis quelqu'un de positif, mais je suis pas quelqu'un d'optimiste, c'est pas pareil.
C'était la voix de Philippe Boucher, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et c'est ce que vous venez en gros de vérifier à travers vos travaux, Anne-Sophie Tribault. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes doctorante à l'Université de Montpellier et vous publiez cette étude très originale dans la revue Nature qui démontre que beauté et biodiversité sont intimement liés. Pour en parler également avec nous, et comme tous les lundis, Hervé Kempf, notre partenaire du magazine reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Quand on parle de défendre la nature, Hervé, et la biodiversité, on parle rarement de préserver sa beauté, hein.
Mais depuis une quinzaine d'années, l'idée s'est effectivement répandue que la biodiversité produit des services écosystémiques. L'exemple classique et facilement compréhensible, c'est celui de la pollinisation des plantes par les abeilles, qui est très utile pour l'agriculture. Et donc, les chercheurs ont développé cette idée utilitariste de la nature, souvent traduite d'ailleurs en monétarisant ces services, c'est-à-dire en leur donnant une valeur économique et en disant qu'il fallait protéger la biodiversité parce qu'elle produisait ces services et donc un ajout important à l'économie globale. Alors, à cela s'oppose une critique philosophique disant que non, il ne faut pas monétariser la nature et qu'elle vaut par elle-même. Et l'étude dont nous parlons aujourd'hui est précisément importante parce qu'elle suit une nouvelle direction que celle des services écosystémiques. Elle va s'intéresser à la valeur esthétique de la biodiversité et montrer que c'est une bonne raison en soi de la protéger.
Et c'est original, on avait envie d'en parler, Axel.
On reparlera, Anne-Sophie Tribault, de services écosystémiques et de beauté. Mais avant ça, je voulais vous demander, dans les faits, comment vous avez procédé pour démontrer ce lien entre beauté et diversité biologique?
Alors, on a travaillé pour ça en partenariat avec Andromède Océanologie et l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée des Corses, qui font donc du suivi du coralligène méditerranéen, qui est un écosystème sous-marin clé en Méditerranée. Ils utilisent donc des photos standardisées qu'on appelle des quadras pour mesurer différentes facettes de la biodiversité, qui donc contribuent donc à la bonne santé des écosystèmes. Donc à savoir la diversité en espèces, la diversité des rôles fonctionnels tenus par ces espèces et leur histoire évolutive. Et on a voulu regarder un petit peu si ces facettes étaient bien corrélées à la perception esthétique qu'on pouvait en avoir. Et effectivement, on a trouvé une corrélation entre ces métriques et des scores esthétiques qui ont été calculés sur chacune de ces photos grâce à un questionnaire photo.
Vous avez montré ça à des scientifiques, à des spécialistes, à des inconnus ?
Alors en fait, il y avait un petit peu de tout, donc c'était un questionnaire en ligne et on avait à peu près 50% de gens issus plus du milieu académique, mais également des gens qui ne connaissaient rien à ces écosystèmes ou en tout cas qui étaient assez peu familiers. Et ce qu'on voit, c'est que le constat est le même. On n'a pas trouvé de différence significative entre des spécialistes du milieu ou non. Donc ça peut en montrer que c'est quelque chose d'assez universel dans ce cas-là.
Donc ça veut dire que c'est pas applicable seulement à la biodiversité sous-marine. À votre avis, ça peut marcher pour une forêt ou une plaine ou une campagne ?
Voilà, tout à fait. Parce que en fait, la théorie évolutive derrière, c'est que finalement, les choix esthétiques sont liés à notre histoire évolutive, en fait, au cours de laquelle on a été amené à plutôt préférer les habitats qui nous sont favorables, donc c'est-à-dire là où il y a plus de biodiversité. Pourquoi ? Parce qu'un écosystème en bonne santé pourra nous fournir donc plus de proies à chasser, de fruits à cueillir, mais également des cachettes pour se protéger des prédateurs. Et donc c'est ce qui explique nos choix esthétiques. Alors ça, c'est pour l'explication évolutive, mais s'ajoute à cela aussi, bien sûr, les aspects culturels au cours de notre expérience et de nos connaissances qui vont aussi venir modifier cette perception esthétique.
Est-ce que les animaux eux-mêmes, alors donc les animaux sous-marins en l'occurrence, pourraient aussi être sensibles à l'esthétique du milieu où ils évoluent ?
Alors oui, d'une certaine manière, puisqu'ils sont obligés un petit peu de s'adapter à leur milieu, que ce soit pour le camouflage ou pour la détection des proies ou pour la sélection de partenaires sexuels. Donc c'est ce qu'on appelle l'écologie visuelle. Mais pour ce qui est des poissons, en tout cas, c'est encore très peu étudié encore aujourd'hui.
On sait que parfois la biodiversité, c'est des animaux qui sont pas forcément beaux, qui sont même laids ou repoussants. Comment on ne tombe pas dans le travers de ne protéger que les animaux beaux ou mignons avec votre étude?
Le syndrome du panda, par exemple.
Le syndrome du panda.
Voilà, exactement. Donc là, pour cette étude-là, ça tombait très bien parce qu'effectivement, beauté était liée à la biodiversité. Donc pour nous, c'est très pratique. Mais effectivement, pour le pendant de ce qui est laid, ben là, c'est un enjeu d'éducation en fait. Parce que avec un autre projet qu'on a fait avec l'Université de Mayotte, on s'est rendu compte sur les poissons de récif que finalement, les poissons moins attractifs représentaient une plus grande gamme de diversité fonctionnelle. Donc là, c'est complètement en divergence. Et dans ce cas-là, la valeur esthétique n'est pas un outil de conservation très pertinent. Et c'est là où justement l'éducation rentre en jeu. Et l'idée, c'est essayer de comprendre en fait ces espèces-là. Parce que, par exemple, il y a certains poissons qui ont, par exemple, un nez un peu plus long, qui peut avoir un aspect moins attrayant. Mais quand on comprend que finalement, c'est un rôle fonctionnel pour pouvoir aller chercher les petites espèces dans le corail, ben, finalement, on trouve cette espèce plus belle parce qu'on comprend pourquoi elle a cet aspect-là. C'est un petit peu là-dessus que... qu'on aimerait jouer en termes d'éducation à l'environnement.
Hervé Kempfin.
Comment concrètement votre étude pourrait-elle servir à changer les politiques de la protection de la biodiversité?
Mais déjà, on sait que plus un paysage ou plus un écosystème est jugé beau, plus il y a une motivation sociale à le protéger et à le préserver. Donc ça, c'est le premier point en tant que levier de conservation. Et puis, c'est vrai qu'avec la beauté, on touche à l'émotion, au sensoriel. Donc, je pense que c'est beaucoup plus facile de toucher les gens avec les motifs et pour faire passer certains messages, effectivement. Mais il faut que derrière, il y ait une pertinence écologique et qu'on ne se contente pas seulement de protéger le panda.
Ben oui, parce que Anne-Sophie Tribault, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de discriminer justement des écosystèmes laids en apparence, avec toute la subjectivité évidemment que ça comporte, et qui pourtant ont un rôle essentiel pour leur environnement direct?
Voilà, c'est ça, c'est tout l'enjeu d'éducation, de dire qu'il faut essayer de comprendre aussi ce qui est laid, et en comprenant des écosystèmes qui nous paraissent laids, finalement comprendre les rôles écologiques qu'il y a derrière, et bien essayer de les apprécier à leur juste valeur.
Une dernière question, pour revenir sur ce que disait Hervé au tout début, est-ce que la beauté peut être comptée comme un service écosystémique à proprement parler?
Alors oui, c'est donc considéré comme un service culturel, bien qu'il soit pas chiffrable ou pas matériellement quantifiable. En tout cas, il apporte du bien-être aux populations humaines. Voilà, en apportant un sentiment de paix, de sérénité. On sait aussi que la beauté des paysages est impliquée pour la santé.
Mmh.
Voilà. Donc oui, effectivement.
C'est-à-dire, petite précision là-dessus.
Alors par exemple, il y a une étude qui a été faite sur les paysages, sur les fenêtres dans un hôpital. Mmh. Et ils avaient vu que les patients qui étaient face à un espace vert se rétablissaient plus vite que les autres.
C'est vrai, voilà, on en avait discuté, je me souviens effectivement, oui. dans cette émission. Merci beaucoup en tout cas pour vos précisions, Anne-Sophie Tribault. Et justement, vous arrivez de Mayotte, hein, où vous mettiez en place la suite de vos recherches. Merci beaucoup voilà. en tout cas d'être passé à la Une de la Science. Hervé, merci. Avant de vous quitter, un mot quand même sur la fin de la COP22 qui s'est terminée à Marrakech. Qu'est-ce qu'on retient en quelques mots?
Pas grand-chose.
Oui, hein.
Une COP22 très technique qui cherchait à mettre en œuvre un certain nombre de détails de l'accord de Paris. Mmh. Même sur ces aspects techniques, ça a très peu avancé. La COP a été secouée, elle a été sonnée presque comme un boxeur par l'arrivée de Monsieur Trump au pouvoir aux États-Unis avec sa position très anti-climat. Et puis, troisième élément important, la Chine, paradoxalement, devient une sorte de champion de la lutte contre le changement climatique, précisément parce que les États-Unis, avec Monsieur Trump, vont se retirer de nouveau.
Merci beaucoup Hervé, et puis toutes ces infos sont à retrouver sur reporter.net comme chaque semaine. À demain Axel.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la science qui est en crise en Argentine, et les scientifiques qui se préparent à des moments difficiles et douloureux face à un Sénat qui a décidé de saborder le budget de la recherche pour l'année 2017, prouvant que ça n'est plus sa priorité. Dans le cadre de son plan d'équilibrage, le gouvernement argentin entend réduire de 198 millions de dollars le budget des sciences et de la technologie qui atteindrait 2,1 milliards de dollars pour 2017. C'est une diminution dans ce pays de 8,5%. À titre de comparaison, la France investit 23 milliards cette année et les États-Unis 90 milliards. La marche pour lutter contre le déclin cognitif lié à la maladie d'Alzheimer, selon une étude américaine, l'activité physique chez les personnes âgées apporte une protection contre le déclin cognitif et des formes de démence. Ces travaux ont été menés sur des personnes volontaires, toutes équipées spécialement d'accéléromètres pendant la durée de l'étude. Et justement, ces données récoltées montrent que les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ont des profils quotidiens d'activité bien plus faibles que les autres. Les auteurs rappellent que favoriser et encourager des activités simples comme la marche s'avère un excellent préventif contre de nombreuses pathologies liées à l'âge. Et puis pour finir, découvrez la très belle vidéo du système saturnien publiée par l'Observatoire de Paris. Ce système planétaire d'une extraordinaire complexité qui se compose de 62 satellites de formes, de tailles et de compositions très variées. Et bien depuis 2004, la sonde Cassini en orbite autour de Saturne fournit son lot incessant d'images liées à cet environnement. Et grâce à ces données précieuses, les chercheurs proposent une nouvelle vision de l'évolution de ce système qui est donc à retrouver sur la page Facebook de La Tête au Carré.